Do you remember first time you heard the legend in leather? The career ended with the road killer stopped to his fender. I'm on another bender, drunk off the power to make a coward surrender as I devour contenders. Talking valor, whoever, your head is about to get seven. Then I bounce it with pleasure, I'm pouring out, I'm a redder. Homies, I won't forget them, so tap the bottle and pour it. Supermodels, I ignore them later on, it's like pouring. Reincarnation of the ripper, I give stitches and chest zippers. Cinderellas get propelled out the glass slippers. Time is ticking, giving ass whippers, how we keep the cash slipping.
Saying, I think you have syrup brain. About to finish you like polyurethane. All that molly poly sure to drain your spinal fluid from your vertebrae. It's the murder gram and I brought my murder game. My shit fire, that is why you log on it like Duraflame. As far as boulevards, I'm talking about farmers like insurance pays. I just blew your girl away, but she on so much growing lean. I call that fucking Hope Katrina. Somebody better give her a cane.
And that's on everything. She let my heavy chain, my yellow diamond shining. Got a whipping like lemon meringue. Stripping in front of the gang, she's slipping inside of the range. Quick to go out with a bang, it's like I threw out a grenade. Would you pull up in this when the killing will begin? You feel me pulling up your skin? I really came to get in and deliver murder grams. Turn over your ambulance, 30 bullets in advance. Candlelight and crying fans, we go in and buy a landslide up behind you, testing my rifle. Give blessings to my disciples, professional. I'm a sniper like 8 miles away. Me, I'm also doing murders with dirty burners. Break them down and melt them in the furnace.
Unapologetic and we're gonna cause a headache. Me and Nell about to set it. We about to murder grams.
So you might as well forget it. Either way, you will regret it. Cemeteries where you're headed.
No message in the chorus. You bastards got nothing for us. The overlord is the rawest. I ain't talking about a rental car when I'm pulling the Taurus. It's Halloween. Them candy bars that get you killed in the forest. We are lyrically lawless. Stacking money, hardest. Start to make you forget all that slick and shit that you thought of. Blow your mind with the sword off. Just when you thought it was safe, we busting at you from the rake. They're hitting the donut. Ain't nothing sweet when we come into play.
I say that you ain't fucking with wine. Do not mean kisses blue, but I got the potential to fucking flip when I mention with a pinch to come back with a vengeance like Jack the Ripper. Ripping, just giving you a sample of fucking snippet. Like scissors do now when I hit the booth. I think of the days I opened. I was quick to fool. Used to fly off the handle like a fucking witch's broom. I called it plucking flowers cause I was so quick to pick a tulip.
Quick, quick.
Like it's petunia, sick medulla. But thanks to Kuja, he created a monster. Spaghetti sauce and mozzarella on a tray full of pasta. You got a couple of motherfucking train killers on ya. And I'm just being as frank as Sinatra. When I be saying that I'ma keep the shit gangster as mobsters. But when you got fanatics going so crazy, they mob ya. Looking like organized crime because you can't get a mafia. And all your motherfucking enemies, they wanna off ya. Like Hoffa and dump your body in Lake Minnetonka. That's how you know you fucking saw and you came and you conquered.
Vinny Vitty beat you stomping and making them bark.
Now women treat me like BDK, okay. The king, and they feed me grapes. Either way, I got more on my plate than an oil you beneath my face. So better pick a BC day, cause your history is shady. Is they about to set it on you like a TV tray, man. I see the way people say I'm so evil. They fucking think that Timothy McVeigh and my DNA are exactly the same. But when I leave this game, things just ain't gonna be the same. But it's a need of change, and I'm the meter maid. Go ahead and crack a bottle, cause this is E&J. Meaning me and James, got that avocado. We the sociopaths, and we got your hoe on our laps. And we're going back to Cali so she can blow on our sacks.
Bad builders against destroyers.
Lively up yourself. you say you got? I don't believe you.
Bad, Builders Against Destroyers.
Oui, ce monde est beau avec des yeux de môme. Bien moins vu des cernes de l'homme. Ne croire qu'en ceux qui marchent l'aune. Monter en un sauce pour méprendre soin de l'autre. Par ça reste la bagarre, nique les batailles de mots. Ceux qui masquent leurs mots, foutu Capharnaüm. Échafaud de la fraude, savoir foire est la faute qui nous mènera à Sodome. On m'a dit anard comme Noam, mais même moi j'avais rap tout niqué au nom de mon âme charitable. Dans les mois à venir, est-ce peu que je m'arme. On en a marre, l'avenir veut que ça crame. Que ça pétait bien, copain, tu pourras payer tes pentes au lieu de compter les points. Quitte à manquer d'hommes de coin et de quoi les yep. J'pense investissement dans armes de poing. En attendant que ça pète.
Le succès est un poison, mais je vais écouter quand même, tu sais, juste pour voir, pour le kiff. Pas pour les femmes et le pouvoir un peu discret. Garde tes disquettes, j'suis une bombe textuelle littéraire. Loin de leur musique imbécile enterrée. La mienne t'emmène, te bouscule comme toutes les œuvres majeures de l'histoire. J'te disais, si l'enfer et l'espoir peuvent t'attendre. Mon ego a mis de l'eau dans son verre, mon négro. Bien sûr que les ragots peuvent m'atteindre, comme les balles des flics. Celle des frères, t'as vu, j'cours moins vite que je pensais. Aussi vrai que t'es peut-être moins libre que tu ne le crois. Certainement beaucoup plus con que tu ne le penses. J'fais trois points avec les frères, libère trois angles. Et cette ambition croissante, me soustraire de cette époque, être un homme de confiance digne. Du lundi au lundi, j'me réveille, la tête un peu en frac, vide. Le cœur en paix, ouais, la vie est une lutte.
Sans forcer, j'écris pépite chaque jour. RTF avec destin sur ce bout de papier. Sur le divan, entre biberon, bout de pépito. J'écris tout ce qui me vient sur le cœur, le palpitant, enfin à peu près. Suffit d'une demi-confidence pour faire un deux traits. Suffirait d'un demi-son qui danse pour me mettre au frais. Mais je préfère son qui pense et ce sans regret. Fuck l'évolution, c'est ne rime pas avec révolution. Revolver 3, 5, 7, piton. Dans le cockpit, on s'expose, nos couplets partant. Martyr, piton, descend sur ton grand remplacement. Je te brûle ton système, tu parles mes placements. Wow, non mais franchement, en attendant que ça pète, juste morceau après la fête. Quand tout le monde est parti, quand t'as plus aucune envie de voter pour un de ces partis de fils de pute de porc.
Salut, salut le peuple. Voici l'émission BAD, nouvelle émission sur Radio Galère. Donc BAD, ça signifie Builder Against Destroyer. C'est-à-dire les bâtisseurs contre les destructeurs. Ici, on est là pour parler des gens qui font des choses, des gens qui luttent, qui font des choses positives. C'est ça l'ADN de l'émission. Et côté destructeurs, tous ceux qui nous embêtent à longueur de journée, à nous donner des mauvaises infos, des bad news, eh ben, ceux-là, on va en parler, mais un tout petit peu. Et ça sera sur le secteur marseillais. Du coup, ça sera peut-être des news que les gens n'ont pas. Avec moi, pour co-animer, j'ai Fabienne.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va.
Nos stress pour la première, c'est bon ?
On va essayer.
Ok. Et on a deux invités. Donc on a Anissa et Liliana Lalonde qui font partie du collectif du 5 novembre. Donc par rapport au dramatique accident qui s'est produit le 5 novembre 2018. Donc on est en date anniversaire malheureusement. Là ça fait 6 ans. Donc on en parlera plus longuement avec elle. Pour démarrer, on voulait déjà commencer à parler des bâtisseurs, donc des gens qui font des choses positives. Donc Fabienne, on a l'exemple d'une maraude qui s'appelle Sourire pour les anges.
Oui, alors au départ, elle ne s'appelait pas comme ça, c'était des bénévoles, et ce depuis 1911, qui se réunissaient et qui allaient d'association en association. Et en 2013, ils ont décidé de créer leur propre association. Donc Michel, on est la présidente. Et il y a environ 15 personnes permanentes et des aides de façon plus ponctuelle de la part des étudiants et des étudiantes. Mmh. À la base, cette association, elle était tournée non seulement vers les enfants et les personnes en précarité, mais Michel m'a précisé que maintenant, c'était de plus en plus vers la précarité, malheureusement. Mm-hmm. Par contre, il garde 4 événements autour des enfants à la période de Noël, du carnaval, d'Halloween et de Pâques. Les gens de l'association se déguisent, achètent de quoi déguiser, maquiller les enfants. Et ils parcourent la ville dans des endroits plutôt safe, m'a dit Michel, comme la Canebière, le Panier. Oui. Et puis défilent avec les enfants, voilà.
Okay.
Mais actuellement, l'association se tourne beaucoup vers les gens précaires et elle m'a dit qu'il y en avait environ 120 à 150 personnes à chaque fois à leur rendez-vous qui est tous les mardis et tous les jeudis au rond-point du Prado. Donc l'organisation est toujours la même. À 19h30, il y a l'arrivée de l'association. Ils dressent 3 tables où va être déposée la nourriture. Donc l'association, elle s'occupe de la nourriture chaude. Elle prépare des vrais repas et ils complètent avec des dons faits par les gens. Qui les amène sur place ou qui les donne en amont à l'association.
Moi, j'y étais allé un mardi soir, et donc je les avais rencontrés. Et oui, effectivement, c'est un couple de retraités, super motivés pour aider les autres. Ils ont aménagé leur garage en entrepôt, en fait. Ils récupèrent des denrées, ils stockent, et après, ils viennent distribuer, donc ils préparent des sandwichs, des soupes, etc. Et c'est vrai que la difficulté, c'est qu'ils me disaient qu'ils avaient souvent les mêmes têtes. Du coup, ça montre le problème qu'on a sur Marseille, c'est que les gens sont dans un cercle vicieux de la précarité et qu'ils s'en sortent pas. Donc toujours les mêmes qui viennent récupérer leurs sandwichs, leurs soupes. Dans les laveries, on va trouver toujours les mêmes qui viennent laver leur linge. On va trouver toujours les mêmes dans les CHRS. Et ça, c'est vraiment le gros problème sur lequel nous on veut travailler avec l'association People Unit. Pour que tout le monde comprenne, People Unit, c'est une association qui est très récente. Et moi, à l'heure actuelle, je ne me suis pas encore décidé sur quoi je vais agir parce que je n'ai pas envie d'être un maraudeur de plus. C'est très bien de faire des maraudes, mais il y a un manque. C'est le lien, en fait, l'accompagnement pour les gens, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'au bout de quelques mois ou quelques années, ils soient un peu comme tout le monde, qu'ils aient leurs 30 mètres carrés, leur petit boulot qui leur permet de payer.
D'être autonome.
D'être autonome, voilà. Donc moi, l'idée avec cette association, c'est de faire en sorte que les gens soient autonomes. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas faire un CV, je n'ai pas envie de lui faire son CV, de lui donner. J'ai envie de lui montrer comment on fait un CV avec un ordinateur pour qu'ensuite il soit autonome et qu'il puisse montrer aussi à d'autres gens. C'est ça un peu l'ADN de l'asso. Et là, je suis sur la période de l'état des lieux. Donc c'est pour ça que je rencontre pas mal de monde, dont des maraudeurs. Et donc voilà, je vous en dirai plus au fil des semaines sur les actions de l'association. Mais voilà, moi j'ai envie de faire le lien manquant sur tout ce qui se passe à Marseille. Parce que c'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup d'endroits. Tu vois, les gens pour aller... Enfin, quoique les places pour dormir, il n'y en a pas assez. Mais il y a un peu de tout. Si tu veux chercher une formation, si tu veux... Même les gens qui sont dehors avec leurs chiens, il y a des endroits où il y a des vétos. Il y a plein de trucs qui existent, mais les gens n'arrivent pas à se sortir, à monter dans l'échelle sociale. Et c'est ça la grosse difficulté. Et c'est là-dessus que moi, j'aimerais agir avec l'association.
Et ça aussi, en amont, les denrées manquent énormément. Ouais. Alors, je pense que c'est dans toutes les associations. Michel m'a dit qu'il y avait un grand manque de moyens, en fait, pour nourrir les gens, en fait.
Ouais.
Et donc, pour ce Noël, en tout cas, ils organisent le jeudi 12 décembre, grâce à la mairie du 6 et 8e, qui offre la salle au 15 rue Pierre-Laurent. À partir de 19h30, donc dans le 6e, l'association, elle propose un repas et la mairie offre quelques festivités. Par contre, si vous voulez aider l'association, vous pouvez appeler Michel au 07 61 85 54 57 ou José au 06 99 60 37 93.
Voilà, donc tous les gens qui sont dans le besoin, sachez que le mardi soir et le jeudi soir à 19h30, rond-point du Prado, il y a distribution de nourriture par Michel et José de l'association Sourire pour les Anges.
Voilà, et avec leurs 15 bénévoles qui les aident.
Ouais. Je voulais parler aussi d'une autre action qui n'est pas récente, hein, ça fait quelques années que ça existe. C'est un magasin qui s'appelle le Super Cafouche, qui se trouve dans le deuxième arrondissement. Donc c'est un magasin en fait collaboratif, c'est-à-dire que pour pouvoir acheter dans le magasin, il faut faire partie de ce groupe, c'est-à-dire qu'on prend des parts et ils demandent d'avoir 3 heures de disponibilité dans le mois pour travailler gratuitement en fait pour ce magasin. Et en échange, tu peux faire tes courses, sachant que les courses, c'est des denrées alimentaires qui sont moins chères que dans la grande distribution. C'est des circuits courts. Et voilà, c'est super intéressant parce qu'on mange, on fait ses courses locales, moins chères, notamment parce que bah, il n'y a pas vraiment de charge salariale, puisque ce sont les gens qui participent à ce magasin, qui font leurs courses dedans, qui donnent 3 heures de leur temps par mois. Pour travailler au sein du magasin. Donc je trouvais que c'était une initiative qui est plutôt bonne. Oui. Et bah, ils cherchent à se développer et à ce ouvrir d'autres magasins.
Pardon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être coopératif, c'est-à-dire qu'on achète 10 parts à 10 euros et on devient aussi propriétaire, copropriétaire. Et sinon, on peut être participatif. Oui. Et on partage 80% des tâches. Enfin, il y a 80% des tâches à faire, comme tu dis, 3 heures par mois. Ouais. Voilà. Et pour les étudiants, les gens au RSA ou avec peu de moyens, pour être coopératif, ils ont juste à payer une fois une part de 10 euros.
Oui. Ok, donc voilà, je vous invite à aller voir ce magasin, aller voir sur les réseaux sociaux, hein. Donc ça s'appelle Super Cafouche, ils font je crois une fois par mois une réunion d'explication sur leur fonctionnement qui vous permet vraiment d'en savoir plus et de pourquoi pas adhérer à ce mouvement. On va faire une petite pause musicale, on va se mettre mon ami Scalpel avec un piano et un violon.
J'écoutais du rap dans des caisses volées avec un gros son dégueulasse complètement pété. Le mix est important, je le sais, refrain, mais franchement je m'en tape si tu sais pas rapper. Alors oui, la technique, le style, le studio, mais rien ne remplace la feuille, le café, le stylo. 16 heures à écrire, à chanter tous ces mots, à boire excité par une petite démo. J'étais le roi du monde dans mon hall, frère. Avec Saïd, la cabine, le duo partenaire. Les distances deviennent des barrières, des frontières. Repose en paix et moi, je t'aimais comme ma mère. On a de quoi être fier, on a de quoi écrire, on a de quoi s'inspirer, peut-être demander pardon. C'est d'où l'on vient, ce qu'on en a chié, mon con. Une partie de mon cœur est enterrée avec le galion. Un piano et un violon, ça permet de faire le taf. Parfois c'est suffisant avec une petite basse qui accompagne le tout. Si les lyrics s'arrachent, n'hésite pas du tout à dire que ça tabasse. Des drums, du flow, c'est simple et efficace. Génération rap, c'est français, freestyle dans la place. Mixtape en cassette dans la 205, monte les basses. Fais tourner la bière et le spliff, une petite taf.
Ah ouais, beaucoup trop de nostalgie sur ce morceau. La vérité, mon quartier me manque trop.
Les 3000, c'était mon monde, c'était mon univers. Ma raison de me lever, de saluer tous mes frères. Et si ça sonne un peu à l'ancienne, c'est ce qu'on veut. Comme un type d'aujourd'hui qui flash chicha et la beuh. On traçait pas de ligne, sauf celle du territoire sur lequel on se battait pour un bout de trottoir. Et tu pouvais finir rafalé par les stars pour un doigt levé au passage d'un gyrophare. C'était la
folie gros, c'était la folie pure. Nos cages d'escalier sentaient la pourriture. Avant qu'ils ne ferment les caves, les vides d'ordures, une merguez à 10 francs en guise de nourriture. Un abri plus comme café, une partie de foot passe le temps. Rien ne sert de s'énerver, tout le monde en mode attaquant. On crache nos poumons sur un bout de bitume brûlant. Et quand un but est marqué, tout le monde le fait en hurlant. Un piano et un violon, ça permet de faire le taf. Parfois c'est suffisant avec une petite basse qui accompagne le tout. Si les lyrics s'arrachent, n'hésite pas du tout à dire que ça tabasse. Des drums, du flow, c'est simple et efficace. Génération rap, c'est français, freestyle dans la place. Mixtape en cassette dans la 205, monte les basses. Fais tourner la bière et le spliff, une petite taf.
Et voilà, c'était Scalpel. Alors normalement on a un petit chapitre destructeur, mais on va passer parce qu'on a franchement plus intéressant. On fera ça plus tard, hein, de se défouler sur les gens un peu. Hein.
Ouais,
donc
est
là
pas
on va passer à l'actu de nos invités. Anissa et Liliana Lalonde, donc qui est maman de victimes, par rapport à l'effondrement de la rue d'Aubagne du 5 novembre 2018. Donc pour petit rappel, donc l'effondrement des bâtiments s'est passé donc le 5 novembre. À 9h, le 63 est tombé, il était vide. Le 65 est tombé, il y avait des gens à l'intérieur. Il y a eu 8 victimes. Et le 67 est tombé un peu avec l'aide des pompiers, parce que l'immeuble de toute façon ne tenait plus. On va rappeler juste pour un bref hommage, si on peut dire, le nom des victimes, c'est important. Donc Julien Lalonde, 30 ans. Taher Edfi, 58 ans. Mohamed Chérif Zemar, 36 ans. Fabien Lavieille, 54 ans. Simona Carpignano, 30 ans. Pape Magatnias, 26 ans. Ouloum Saïd Hassani, 56 ans. Marie-Emmanuelle Blanc, 56 ans. Paix à leur âme. Voilà, donc nous avons donc nos deux invités qui vont nous parler, parce que ça fait 6 ans. Il y a un procès qui s'ouvre dans 2 jours. Donc vous êtes au cœur du sujet. Fabienne, une première question.
Oui, où ont été relogés les 4500 Marseillais qui ont dû quitter les immeubles les plus dangereux et de la métropole à l'heure actuelle, et à l'époque et à l'heure actuelle en fait?
Alors effectivement, il y a eu plus de 4500 délogés, parce qu'aujourd'hui en 2024, on arrive à plus de 8000 personnes délogées comptabilisé, parce qu'il faut savoir que lors des évacuations, il n'y a pas forcément, on ne comptabilise pas tout le monde, mais simplement ceux qui sont pris en charge par la ville. Donc il y a des personnes qui ont peur lors de l'évacuation et qui préfèrent se reloger par leurs propres moyens, chez des amis ou de la famille, effectivement. Et où sont passées ces personnes, c'est la grosse difficulté qu'on demande aux institutions, c'est-à-dire de nous communiquer les chiffres, notamment de manière anonyme, hein, mais simplement pour savoir si on n'essaye pas tout simplement de vider le centre-ville de ses habitants jusqu'à aujourd'hui. Et quand on regarde, quand on s'interroge sur les chiffres, il y a une personne qui s'appelle Elisabeth Doré qui a fait un rapport chiffré et qui a constaté que plus d'un tiers des personnes évacuées du centre-ville sont relogées essentiellement sur les quartiers nord, donc 3e, 13e, 14e, 15e arrondissement.
Donc c'est questionnant sur politiquement les objectifs de la ville en fait. Après les effondrements.
Effectivement, on s'interroge quand on voit ces chiffres-là sur la réelle volonté politique. Et étant donné qu'il devait y avoir beaucoup de travaux, notamment dans le centre-ville, pour remettre en état des immeubles. Et on voit encore à l'heure actuelle des immeubles avec des étés, des immeubles en arrêté de péril toujours depuis des X années, des évacuations qui continuent et des personnes qui ne sont pas forcément prises en charge comme il le faudrait par la ville de Marseille.
Et ces personnes-là, vous savez ce qu'elles deviennent, celles qui ne sont pas du tout prises en charge?
Alors on a quelques échos, notamment quand on intervient sur l'évacuation d'un bâtiment, quand on réussit en fait, enfin quand des personnes arrivent à connaître notre existence, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui se passe très vite, on peut mettre un arrêté de péril sur votre immeuble. À partir de ce moment-là, vous avez la visite de la ville et des pompiers et de la police, et vous avez 20 minutes pour évacuer votre bâtiment. Donc autant dire qu'on n'a pas le temps de faire des recherches de quelle association peut s'occuper, quel droit j'ai en tant que délogé. C'est quand même une situation assez particulière d'évacuation.
Donc en fait, excuse-moi, ils ont dormi pendant 30 ans, mais quand il faut partir, t'as 20 minutes, quoi.
Exactement, ouais, c'est tout à fait ça.
C'est horrible.
On voit d'ailleurs même à l'heure actuelle, parce qu'ils ont essayé d'anticiper, on va dire, en mettant des mises en sécurité urgentes et imminentes, qui sont à peu près la même chose, mais sans évacuation. De là, ils donnent jusqu'à 10 mois aux propriétaires pour faire des travaux, notamment de mise en sécurité. Et généralement, les travaux ne sont pas faits dans cette partie-là. Et les personnes ont toujours 20 minutes au bout de 10 mois pour évacuer. Et c'est très, très problématique.
Ah, ok. Je voulais revenir juste sur comment ça s'est passé juste après le drame. Moi, j'ai lu des choses que le communiqué de la mairie, le jour même, c'était à cause de la pluie, l'effondrement, alors qu'ils avaient des arrêtés comme quoi c'était insalubre et que ça risquait de s'effondrer. Donc la première communication de la mairie de Marseille, c'était les fortes pluies. Voilà. Donc voilà.
Ouais, le lendemain, c'était le 6 novembre. Ouais. La mairie du 6e et du 8e arrondissement ont rien mieux à faire que d'organiser une dégustation de chocolat. Il y a quand même un gros décalage entre le drame qui vient de se dérouler et la recherche des victimes et ce qui se passe pendant la dégustation.
Ils auraient pu annuler, sachant qu'on cherchait des victimes dans les décombres. Et on a aussi, donc 3 jours après, le 8 novembre, donc il y a des manifestants qui se réunissent devant la mairie de Marseille, vous en faisiez peut-être partie, et Jean-Claude Gaudin a été questionné sur le fait qu'ils ont mis 15 millions d'euros par an pour améliorer le logement, ce qui est peu, 15 millions par an, alors qu'ils avaient mis 56 millions dans la belle patinoire qui est sortie de terre en 2009. Et à ça, il a répondu « Je ne regrette rien ». Voilà. Voilà. Vous, côté famille de victimes, évidemment, je ne vous demande pas le détail évidemment, du deuil, hein, mais les premiers jours, quelles informations vous avez eues que...
Bah écoutez, quand j'ai appris ce qui venait d'arriver, j'étais déjà au point de rentrer au Pérou, puisque j'avais ramené ma mère. Mmh. Et mon époux, il venait de rentrer au Pérou. Et quand ma fille a reçu un coup de fil des amis de mon fils, ils m'ont informé qu'il fallait qu'on reparte rapidement sur Marseille. On est arrivé à minuit. Il est certain qu'il y avait une cellule des crises. On a été accueillis par eux. Il y avait la police. Donc, il y avait une réponse à ce qui venait d'arriver. Mm-hmm. Mais très vite, on a compris le lendemain que la mairie nous avait d'une certaine façon abandonnés. J'avais entendu effectivement que dans un premier temps, ils croyaient qu'il n'y avait personne. Oh. Et ils croyaient effectivement, j'ai entendu toutes sortes de choses comme que c'était la pluie, etc. Mais moi-même, j'étais venue quelques jours auparavant et j'avais vu l'immeuble, j'étais rentrée, j'ai dormi dedans avec mon fils et j'ai vu l'état déjà au moment de rentrer dans l'immeuble. J'ai vu qu'il y avait un été, le mur était bombé, c'était obscur, noir, et puis à l'intérieur de l'appartement, il était tout blanc, c'est sûr, ils avaient fait la peinture, mais la fenêtre était cassée. Le radiateur pendé, les prises électriques étincelées. Donc j'ai dit à mon fils, moi j'ai peur ici. Il n'y a pas un tremblement de terre en France. Heureusement, il n'y a pas de tremblement de terre comme au Pérou, parce qu'un qui arrive ici, l'immeuble tombe.
Mais votre fils n'avait jamais entendu des bruits ou de, des choses
non,
un peu inquiétantes.
Non, écoutez, il travaillait donc pour l'hôtel, l'appart-hôtel Adagio, et donc il avait des différents heures horaires. Et donc, je ne sais pas, il ne m'avait jamais dit. D'ailleurs, c'est ce que je ne me fatiguais jamais de dire, c'est qu'il a fait confiance, mon fils. Parce que le jour que je suis arrivée, il m'a raconté qu'on les avait évacués par les fenêtres, parce que les marches, l'escalier, elles semblaient dangereuses. Les pompiers avaient dit qu'il fallait absolument évacuer, puisque l'édifice semblait dangereux. Et donc, il y a eu le passage d'un expert, qui est apparemment resté assez, très peu de temps, et lui, il les a fait rentrer à nouveau. Et mon fils me dit, maman, t'inquiète pas. Je dis, mais là, c'est quand même dangereux. Il me dit, non, ne t'inquiète pas. Ils ont fait le nécessaire. Ils ont dit qu'il y aurait quelques petits travaux à faire la semaine prochaine, mais qu'on ne risquait rien. Et donc, j'ai cru mon fils. C'est ce qu'on leur a dit. Et c'est ça, c'est une des choses qui m'ont énormément choquée. C'est-à-dire qu'on constate que quand on fait confiance, finalement, il faut analyser qui le dit, parce que depuis, avec tous les délogés qu'on a vus et tout l'état des immeubles, je me dis, mon Dieu, on ne peut pas faire confiance. En tout cas, à cette époque-là, les immeubles étaient dans un état lamentable et surtout indigne pour un être humain. Et c'est pour ça que j'ai pris comme combat pour moi, et ce qui m'aide énormément à continuer mon chemin, c'est de me dire, donner un sens à la vie de mon fils et donner un sens à ce qui s'est passé, une raison d'être. Je me dis, si ça s'est passé, c'est parce que maintenant on découvre une réalité qui est connue pour pas mal des gens depuis des années, mais que on n'a pas bougé. Il a fallu que dans la deuxième ville de France, un immeuble tombe et qui tue 8 personnes pour qu'on dise, ah, finalement, les ciels leur tombaient sur la tête, ça pouvait arriver.
Et donc, quand vous dites que vous êtes rendu compte très rapidement que vous n'étiez pas soutenu, il y a tout de suite des gens, vous êtes tout de suite organisé, comment ça s'est passé?
Mais écoutez, organisé de mon côté, non, c'était la famille, vous savez, quand ça vous tombe, c'est une mort dramatique, c'était mon fils, enfin notre fils qui venait de mourir, il venait d'avoir 30 ans, c'était une souffrance, une douleur qu'on ne pouvait pas imaginer. J'ai fait confiance, mon fils a fait confiance, et voilà ce qui arrive. Donc ce n'était pas uniquement la douleur, la peine, la tragédie, mais je ne sais pas, mais personnellement, quand quelqu'un m'aimant ou quelqu'un te dit, je te promets, je te jure, c'est comme ça, et puis après, on est les mains vides, moi, c'était une douleur profonde. Profonde d'un autre être humain, quand on reçoit des gestes, il y a des manquements, il y a des êtres humains qui ne veulent surtout pas s'intéresser à la vie et le bien-être des autres, tout ça, ça me fait vraiment de la peine, ça me fait mal. Et donc à ce moment-là, quand on a découvert, on a eu vite été entouré, mais pas entouré par la mairie, on a été entouré donc dans la cellule des crises, on a été vite entouré par les amis de mon fils, puisque lui, même si ça faisait pas très longtemps qu'il était à Marseille, il avait quand même quelques-uns qu'il avait rencontrés au Pérou et d'autres qui venaient de rencontrer, mais il y a eu un lien très vite créé, et puis ils sont venus, ils nous ont accompagnés, et puis des amis aussi de l'IRD, puisque je travaillais au Pérou pour l'IRD, et puis bien sûr le collectif, j'ai tout de suite été entourée par eux, comme s'ils savaient puisqu'ils habitaient dans cette rue, ils savaient quels étaient leurs besoins et ils savaient quelle pouvait être la douleur d'en perdre de la famille dans des conditions pareilles, parce que c'était horrible. Quand j'ai vu tout à terre, et ça faisait juste quelques jours que j'étais là, ça a été terrible, quoi.
Et du coup, après ce terrible drame, comment vous êtes organisée, Anissa et Liliana? Vous avez fait partie d'un collectif. Qu'est-ce que vous faites maintenant encore?
Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant 6 ans?
Alors, pour ma part, je fais partie du collectif du 5 novembre, effectivement. Liliana, c'est une famille, c'est la maman de Julien. C'est pas quelqu'un du collectif, c'est quelqu'un qu'on soutient, qui est un membre d'honneur du collectif du 5 novembre, de fait, de sa position, bien sûr. Et nous, notre premier objectif au collectif du 5 novembre, c'était de soutenir, en fait, les familles et les proches des victimes, parce que les institutions n'avaient pas du tout ce projet. Dès qu'on est arrivé au tout début, ils nous ont bien signifié qu'il n'y avait personne sous les décombres. Quand on a cherché des proches, quand on a crié le nom de proches, on était même menacé d'aller en garde à vue. Les médias de toutes parts commençaient à arriver, les élus de toutes parts, dont Gaudin, commençaient à arriver. Et c'est là où il nous sort qu'effectivement, c'est la pluie. Alors qu'il faut savoir que depuis 2015 minimum et bien avant, il y a des lanceurs d'alerte qui ont dit que cet immeuble allait s'effondrer si on ne faisait rien. Il faut savoir que Xavier Cachard, qui était élu à la métropole, à la région, excusez-moi, élu LR à la région, donc un proche de Gaudin, était aussi propriétaire d'un appartement et était aussi l'avocat du syndic de l'immeuble. Donc ces personnes-là avaient des compétences, ces personnes-là avaient les moyens d'agir. Si elles n'ont pas agi, c'est simplement de leur volonté.
Il y a une plainte sur ce mesure ?
Oui, en fait, on a... Le juge d'instruction, lui, il a remis le mois d'avril, il me semble, fin avril, remis le résultat des 5 années et demie d'enquête. Mmh. Et donc, on a 2 personnes physiques et 2 personnes morales. Ah, on a donc le représentant de la mairie.
Marseille Habitat et le syndic
Julien Ruas, comme personne physique. Et puis on a également de messieurs, alors c'est du, on a le cabinet Lyotard comme personne morale, et on a également Marseille Habitat comme personne morale. Mais après, il y a eu le parquet a rappelé d'autres personnes, donc on se trouve maintenant avec un certain nombre de personnes physiques et morale, et nous, les familles, nous attendons vraiment que toute l'information recueillie puisse être diffusée, qu'on puisse entendre, et surtout le travail fait par le juge Grand, on va pouvoir savoir, nous, exactement c'est ce qui a pu arriver, puisqu'il y a eu des experts, des gens connaisseurs qui ont analysé tout le problème. Et donc, à partir de là, en connaissance des causes, on espère vraiment que les droits aidera, que la justice puisse jouer, et puis que les accusés et les responsables désignés puissent finalement être accusés et désignés coupables.
Là, c'est en cours ou...
Pardon ?
C'est en cours, hein ?
Ah, ben écoutez, le procès commence donc, c'est jeudi 7. Et normalement, on imaginait une fin vers le 18 décembre, mais on ne sait pas exactement. Il y en a qui disent que probablement ça va durer encore plus après les fêtes, le mois de janvier. En tout cas, nous étions tous dans une salle d'attente avec l'angoisse de se dire quand ça allait arriver. Là, maintenant, la date est là. Et donc, quelque part, on est soulagés de voir que tout ça va être traité. Et puis, comme mère, le fait d'avoir perdu mon fils, ça m'a donné la force de donner sens à un combat, qui est le combat également des vivants, et c'est le combat des délogés. Il faut maintenant travailler aussi pour ceux qui sont encore là et qui ont tout perdu, puisqu'on les a fait partir très vite de leur logement, de leur quotidien, de leur vie de tous les jours. Les enfants, ils sont encore plus loin. Alors, j'arrête pas de dire que je rêve que bientôt, peut-être le 5 novembre de l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourra fêter ce 5 novembre la réintégration ou la réinstallation des délogés dans leur logement sur la rue d'Aubagne.
Mais les rêves deviennent souvent réalité, vous viendrez nous en parler. Hein.
Ah ben écoutez, moi je ferai la fête. Je ferai la fête parce que ça veut dire qu'on a trouvé des sens à la mort des victimes et qu'on aura essayé. Et puis les collectifs qui ont beaucoup aidé, tous ces combats, ça aurait aidé. Et d'une part, et d'autre part, reconnaître qu'il y a un vrai problème de l'habitat. Un problème, et on n'arrive pas à se décider s'il faut se battre uniquement pour l'habitat ou aussi pour la dignité. Et ça va, à mon avis, ensemble.
Donc, c'est oui, parce que la rue d'Aubagne a fait ressurgir à plein d'autres endroits.
Mais ils sont dans toute la France, un peu partout, même en Europe. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a eu ces rencontres samedi dernier où on a été vraiment très intéressés d'entendre les expériences des uns et des autres, voir comment ils voient leur manière, comment ils se battent, comment ils arrivent à résoudre. Et l'échange d'expériences a été très riche. Et puis surtout, le partage d'informations et de voir que finalement, on n'est pas 3, 4 ou 5, on est plus nombreux de ce que nous, on croyait. Et surtout, on est beaucoup plus nombreux de ce que les autres croient. Oui. Donc, et on va pouvoir être de plus en plus nombreux, on espère. Et puis...
Plus fort, alors, du coup.
Exactement.
Et par rapport aux accusations... On les devine, hein, d'avoir laissé aller, de ne pas avoir écouté les alertes des experts. Mais est-ce que vous connaissez un peu leur ligne de défense? Est-ce que ils vont tous se renvoyer la balle, dire c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute?
Ben écoutez, une ligne de défense, je pense que leurs avocats, ils ont une stratégie et puis ils vont essayer de effectivement défendre leurs clients. Mmh. Mais nous, on a beaucoup de... On a des témoins, on a des analyses, des études qui ont été faites. Donc, on espère et on est confiant. En tout cas, personnellement, je suis confiante qu'à la lumière de tout ça, on va finaliser pour désigner les coupables.
Mmh. Okay. Liliana, tu aurais quelque chose à rajouter ? Anissa, pardon.
Oui, effectivement, c'est par rapport à la mobilisation des habitants qui a été tout de suite assez forte. Je pense qu'il y a eu une grosse cassure, comme le disait Liliana, sur la confiance envers les institutions. À ce moment-là, Marseille prenait conscience que les institutions n'étaient pas du tout du côté des habitants, ne se plaçaient pas non plus en protection des habitants et ne permettaient pas du coup aux habitants de vivre dans des endroits dignes, tout simplement. Il faut savoir que le droit au logement digne est inscrit dans la Constitution française. C'est donc un droit fondamental qu'est le logement digne. Quand on dit logement digne, on parle de logement correct, pas en cas d'insalubrité, encore moins de péril. Et effectivement, quand on prend l'ampleur juste au lendemain du drame, les gens qui appellent la ville, qui disent « moi aussi j'ai des fissures », moi aussi j'ai ceci, moi aussi j'ai cela. Et qu'on se rend compte que 6 ans après, on est 8500 délogés sur Marseille, on se rend compte aussi qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le mal logement. C'est un des stigmates. On sait que Marseille, bon, bah, ça faisait partie, on va dire, de la carte postale. Les bâtiments en pas très bon état, mais on était très loin de s'imaginer qu'ils allaient un jour tomber. Pour les personnes elles-mêmes, moi je sais que j'ai une amie qui était... qui est décédée aussi dans ces effondrements-là. La semaine d'avant, elle me dit bien clairement, je vais mourir dans cet immeuble.
Carrément.
L'immeuble va s'écraser sur nous. Et ça m'est resté toujours dans la tête parce qu'à ce moment-là, j'imaginais même pas que ce soit possible. J'imaginais même pas un seul instant que les pouvoirs publics n'aient pas fait le nécessaire. En plein centre-ville de la deuxième plus grande ville de France, des immeubles qui tombent, c'est juste incroyable.
Et votre amie, elle n'avait jamais fait part à sa propriétaire de cette sensation de...
Si, bien sûr. Ils en ont parlé, ils ont été signalés, ils ont été sortis de leur immeuble. On les a fait retourner dans leur immeuble. Et ils le voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on reprend les témoignages des personnes qui habitaient le 65 rue d'Aubagne, tous disaient entendre des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus. Tous sentaient en fait ce qui allait arriver. Et comme disait Liliana, on a tendance à faire confiance. Là, on s'est réveillé, en tout cas à Marseille, et petit à petit aussi au national. Ça fait un écho même au niveau de l'Europe. Ce drame-là de la rue d'Aubagne, Liliana nous disait que c'était un sens à son combat. J'ai envie de dire que ces 8 personnes décédées ce jour-là ont-elles réellement en fait fait quelque chose pour l'habitat indigne en étant malheureusement les martyrs du mal logement sur Marseille. Et c'est entre guillemets les porte-paroles invisibles de cette cause-là à travers la France entière. Le 2 novembre, on a organisé la première journée du mal logement à Marseille. Et on a regroupé plus de 55 collectifs et associations locales, mais aussi au niveau national. Et comme le disait Liliana, il y avait même des Américains, donc Tank, qui ont expliqué aussi leurs problématiques. Et on se rend compte que les cibles sont les mêmes, c'est les institutions. Les institutions sont-elles compétentes en matière de mal logement, de logement tout court, déjà. Et à Marseille, c'est la métropole. Martine Vassal, qui a cette compétence. Il faut savoir que depuis 6 ans, il y a eu un gros combat qui s'est mené dès le départ et qui a été proposé par les concernés eux-mêmes, donc les délogés eux-mêmes. On travaillait à une charte du relogement des personnes évacuées. Et dans cette charte, c'est une compilation déjà du droit commun, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on revendiquait nos droits, les institutions en face, tellement elles n'étaient pas compétentes, elles n'étaient même pas au courant et elles n'avaient même pas la technicité qu'on pouvait avoir, nous, en tant qu'habitants, justement, d'habitat insalubre.
Ah oui.
Voilà. Donc déjà, si j'ai un message à faire passer, là, on est à la radio, il y a beaucoup de Marseillais peut-être qui nous entendent, vous êtes tous légitimes à vous faire entendre. Parce que finalement, en face, on a des personnes qui sont tellement loin de la réalité.
Et incompétentes.
Et incompétentes que vous êtes vous-même des experts de vos propres logements.
Ouais, et on est... c'est nos droits. Donc après, je trouve que les Marseillais, ils ont été fortement mobilisés. Même sur la dernière manifestation, hein, ce week-end, il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé ça super, 6 ans après, qu'il y a encore autant de monde mobilisé. Donc merci aux Marseillais.
Et aujourd'hui aussi, apparemment, il y a encore du monde.
On va devoir se quitter, il y a un ami derrière nous. Donc merci Liliana
merci
et Anissa pour vos témoignages.
À vous.
Merci à vous.
Merci Fabienne. Et on va se quitter sur un de mes morceaux, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc le morceau s'appelle Anti-Anti, je le balance. Et puis on se quitte sur ça et on se revoit dans 2 semaines, mardi, dans 2 semaines. Allez, ciao le peuple.
Ciao.
Anti-métissage, anti-noir, anti-arabe, anti-noir, anti-rome, t'as un cœur anti-titane, anti-sémite, anti-gitane, anti-voile, anti-kippa, anti-soutane, anti-alloc, anti-RSA, anti-jacob, anti-femme, anti-anissa, anti-couscous, anti-tièbre, anti-lassa, putain, mais t'as une vie de merde. Écoute, moi je suis anti-anti, j'ai pas de haine et ça je te le garantis. Tous debout, moi je suis anti-anti, mon people me suit dans mon sourire. Écoute, moi je suis anti-anti, je fais ce que je peux, je ne suis qu'un apprenti. Et pendant ta haine, elle te ralentit. Mon people me suit, on s'en m'en fout, j'meurs. T'es anti-fête, t'es anti-mariage.